Alexandre Baralez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste marché hein, chez IG France. On va parler avec vous bien. Peut-être pour commencer d'un petit bilan 2014. C'est vrai qu'on le dit souvent, les banques centrales sont à la manœuvre. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année? Il y a eu quand même un peu plus de volatilité, en tout cas en fin d'année?
Oui, c'est une année à diviser en deux parties, clairement. On voit la première partie de l'année qui se déroule plutôt bien pour les marchés. Malgré des statistiques macroéconomiques déjà en déclin dès le premier et deuxième trimestre, les marchés continuent leur phase de hausse toujours catalysée par les discours de la Banque Centrale Européenne. Et puis la réalité macroéconomique qui rattrape les marchés, second semestre, la volatilité qui reprend très nettement sur les marchés européens et les marchés américains. Et puis une fin d'année qui est un petit peu en demi-teinte, hein, qui est un petit peu à la médiane de ces deux dynamiques de l'année 2014. Qui ouvre malgré tout, et malgré les derniers soubresauts sur la Grèce, sur l'Italie, je pense des perspectives plutôt optimistes pour 2015.
Alors on peut dire qu'on a scruté de près les discours des banquiers centraux. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'espoir, ou en tout cas on sent qu'il y a un pari notamment pour la zone euro, avec ce que pourrait faire Mario Draghi en début d'année 2015. Est-ce que c'est pas un peu parier sur l'inconnu quand même?
Alors, c'est clair qu'il y a un pari des marchés sur la Banque Centrale Européenne. On a vu ça régulièrement, l'Italie. Malgré la dégradation récente de l'agence Standard & Poor's, qui a battu de nouveaux records à la baisse sur son taux à 10 ans, même chose pour les pays cœur de la zone euro, la France n'a jamais emprunté aussi peu cher, donc c'est forcément la traduction d'une adhésion totale des investisseurs sur le discours de la Banque Centrale Européenne. Les indices comme le DAX qui bat de nouveaux records également, l'euro également qui tombe sur des niveaux pas vus depuis plus de 2 ans, c'est une adhésion au discours de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il y a un risque de déception? Je pense que la BCE ne prendra pas ce risque-là. Il faut forcément se projeter. Quand on entend Mario Draghi, qui est dans la dernière conférence de presse, emploie le mot quantitative easing, donc QE, à des dizaines de reprises, plus les différents membres du Conseil également qui emploient ce terme et qui vont plus loin dans la description, il n'aurait pas pris le soin d'aller aussi loin dans le détail pour ensuite ne rien faire. Donc je pense qu'il y a une réalité qui va se faire au premier trimestre 2015. Pour l'instant, les marchés accusent un peu le coup de manière plus technique, prise de bénéfices, je pense. Et ensuite, progressivement, ça devrait repartir à la hausse, pour l'Europe en tout cas, dans les mois qui viennent.
Donc, quelque part, l'idée que la macroéconomie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire dans la zone euro difficile avec les questions de dette publique pour beaucoup d'États, une croissance atone, quelque part, la Banque Centrale Européenne doit agir.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le choix. On voit bien que l'inflation à 0,3% en zone euro, c'est extrêmement faible. Et encore, ces chiffres ne tiennent pas compte de la baisse des prix du pétrole, alors qui est négative à court terme parce qu'elle pèse sur les valeurs pétrolière, mais qui est tout à fait positive pour la reprise économique. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être plutôt positif et optimiste pour les 12-18 prochains mois? C'est la baisse de l'euro, la baisse du pétrole qui est un catalyseur de la croissance, c'est les réformes structurelles qui, malgré qu'elles prennent du retard en France, en Italie, sont quand même présentes dans plusieurs pays, notamment des pays périphériques. C'est l'action de la Banque centrale qui va diffuser progressivement à l'économie réelle. Et puis c'est le plan Juncker également, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais qui ne pourra pas lui seul relancer la croissance en zone euro, mais qui vient seconder la politique monétaire de la BCE, qui pourra ensuite, je pense, prendre des effets de levier, prendre de l'ampleur et déboucher sur un scénario plus positif. Donc je ne crois pas du tout à un risque de rechute de l'économie comme lors de la crise de la dette, ça paraît très peu probable.
Alors aux États-Unis, là, effectivement, il y a eu plutôt des derniers chiffres qui étaient plutôt positifs. C'est vrai que tout au long de l'année, on a scruté là les chiffres de l'emploi hein, de près. De ce côté-là, il y a encore. Bon, il y a un consensus hein, sur 2015, juin 2015 en tout cas, mais il y a un discours aussi assez pragmatique de la Banque centrale européenne, Banque centrale, pardon,
C'est
américaine,
tout à fait ça, c'est que les marchés, je pense, côté américain et les investisseurs, les observateurs ne sont pas forcément très dupes. Sachant que la Fed avait déjà fait le même coup, si je peux me permettre, il y a quelques temps de cela, notamment avec la question du tapering, si on se souvient bien, il y a quelques mois, juste avant que Bernanke n'annonce le fameux ralentissement des achats d'actifs. Un mois, 2 mois avant, le discours était encore ultra expansionniste. Et quasiment 2 mois à l'autre, le discours a changé. Je pense être pareil pour la Banque centrale américaine. On a vu que les derniers chiffres de l'emploi américain, 5,8% de taux de chômage, des NFP qui grimpent, donc la création d'emplois qui grimpent à des niveaux totalement inattendus par le marché, plus une inflation qui repart progressivement. Toujours tiré à la baisse par les prix de l'énergie, mais malgré tout, on est à 1,4, 1,5, donc ça reste quand même des niveaux qui suffisent à redresser le taux directeur, le taux principal, à 0,25, sans mettre pour autant l'économie en danger. Mais je pense qu'effectivement, on est quand même beaucoup plus proche d'un resserrement de taux outre-Atlantique que le consensus ne le laisse croire en juin. Je pense que ce sera plus probable fin du premier trimestre 2015.
Donc ça peut créer un peu de volatilité aussi,
Il y aura
forcément sur
volatilité.
ces
Il y aura
anticipations.
volatilité, parce que quand on voit que le Nasdaq 100, par exemple, hein, fait 300% de performance depuis 2000, que le S&P plus de 200%, il n'y a eu que très peu de phases de correction entre 2012 finalement, le lancement du QE3 et lancement des premières mesures de la Banque Centrale Européenne, on voit que c'était une évolution quasi linéaire du S&P 500. Donc je ne pense pas qu'on continue au même rythme, je pense qu'on va connaître des phases au minimum de consolidation, voire de correction, pas de krach. parle pas du tout de ça, mais de phase de répit où le S&P pourra tomber sous les 2000 points, sans que pour autant que durablement ça mette en danger la hausse. Donc je pense qu'on va connaître effectivement ça dans les mois qui viennent, une espèce de phase de répit et hausse potentiellement de la volatilité dans cette phase-là.
Alors on a eu, hein, avec ces évolutions des devises, des réactions aussi du côté des pays émergents. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, quand on parle de ça avec tous les intervenants sur les marchés, ils disent... On parle de pays par pays, hein. On va parler du Brésil, on parle de la Chine. Globalement, est-ce que ce qui s'est passé sur les devises a joué et est-ce que les pays émergents sont peut-être plus compliqués aujourd'hui pour l'investisseur?
Oui, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas les classer tous dans la même catégorie. On voit les évolutions différentes d'un pays à l'autre. On voit, par exemple, sur la Russie, est-ce qu'on la qualifie toujours d'émergente ou non, mais l'évolution des devises est liée à l'évolution de la situation macroéconomique, l'évolution des sanctions, l'évolution du prix du pétrole. Et c'est différent dans quasiment tous les pays. Donc, on ne peut pas effectivement généraliser tous les pays émergents. En revanche, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est quand même, qu'on le nomme comme ça ou non, dans une guerre d'échange aujourd'hui, on le voit très bien. L'Europe qui fait baisser volontairement, malgré les discours de Mario Draghi qui explique qu'il ne vise pas de taux de change, on ne fait pas revenir l'inflation s'il n'y a pas de croissance. Donc, le premier levier, c'est le taux de change. Et évidemment que la BCE cherche à faire baisser massivement le taux de change. Et je pense que la baisse de l'euro à ce titre-là n'est pas encore terminée. Pour moi, on va aller en 2015 sous les 1,20. Je pense qu'en 18, en 19, sont des niveaux macroéconomique justifié sur le rodol.
Alors on voit aussi la réaction du côté par exemple du Japon. Alors là on se pose des questions, hein. Il y a eu beaucoup d'articles positifs sur les Abenomics, hein, ces fameuses mesures effectivement au Japon de relance de l'économie japonaise. Et puis là il y a à nouveau des doutes, on se pose la question sur son efficacité.
Oui, alors effectivement les Abenomics c'était plusieurs flèches différentes, hein. On voit bien qu'il y a une partie monétaire, puis des parties de réformes structurelles, de relance. Toutes les flèches n'ont pas été complètement décochées. Et on sent que la dernière, quand c'est notamment l'ajustement des taux, et notamment des taxes, a été repoussée. Et ça a d'ailleurs généré la mise sous surveillance négative du Japon par l'agence Fitch il y a quelques jours. Et on voit qu'effectivement, le Japon connaît une espèce de phase de ralentissement dans cette reprise. Il faut quand même voir le chemin parcouru par le Japon. On parle souvent des 2-3 dernières années, parce que ça correspond à l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe et la mise en place de ces mesures. On est quand même dans un cycle aujourd'hui au Japon qui est sensiblement différent des années précédentes. Je pense que la Banque du Japon ne va pas arrêter sa politique expansionniste. Je pense même qu'elle va potentiellement l'accentuer encore en 2015, ce qui devrait faire encore baisser le yen, hein, par rapport aux autres devises. Mais il n'y a pas de raison que Shinzo Abe abdique alors qu'il a voulu créer la vraie rupture. S'il arrive jusqu'au bout de la rupture, il faut décocher vraiment les trois flèches. Et s'il décoche les trois, je pense qu'effectivement le Japon progressivement va sortir d'atonie. Sur les prix, c'est déjà partiellement gagné quand même.
En conclusion, sur l'évolution de l'allocation d'actifs, on voit beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui favorables aux actions. Est-ce que ça reste... Bon, il y a cette quête du rendement, bien entendu, mais il y a aussi la prise de risque. Quelle est un peu l'évolution pour vous?
Je pense que ce qu'on va observer en 2015, on a vu que l'année 2014 était marquée par la recherche de rendement à tout prix sur la dette souveraine, sur la dette des emprunts d'État européens, toujours dans cette attente forte de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, on a une inflation qui est très basse, mais des rendements sur l'obligataire souverain qui sont également extrêmement bas. Donc, on va potentiellement assister à une rotation entre secteurs, je pense. Les investisseurs qui auront 2,5%, ça ne suffit plus. Ils vont aller sur le marché actions, chercher des dividendes et du rendement plus important. Et je pense que cette allocation va se faire de cette manière-là. Même si sur certains pays ça peut mettre un peu plus de temps à redécoller, je pense qu'aujourd'hui parier sur la France pour les 2-3 prochaines années en termes d'indices, le CAC notamment, l'Espagne également qui se redresse bien, le Portugal, l'Irlande, voilà, il y a plusieurs pays européens qui au niveau de leur valeur sont intéressants, pas trop chers encore aujourd'hui, et je pense qu'on va assister, on devrait toujours avoir des taux bas en 2015, il n'y a pas de raison que la BCE change son fusil d'épaule, mais en revanche je pense qu'il y aura une prise de risque supplémentaire qui devrait favoriser les marchés actions.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Alexandre Barrès.
Merci.